9. J'ai dit que les gens avec lesquels je me suis trouvé en relation, à l'exception de mon mari et de mes parents, avaient presque toujours été bons pour moi. Le propriétaire de la maison dans laquelle je m'étais établi après mon mariage a pris ma triste position. Il me donna la garde d'une maison inoccupée qu'il possédait et m'alloua une petite somme par semaine pour me charger de ce soin. Quelques-uns des meubles du premier étage, n'étant pas utiles au dernier locataire, avaient été laissés dans le logement et, moyennant un faible prix, le nouveau locataire pouvait s'en accommoder. Deux des chambres de domestiques dans le haut de la maison et contiguës l'une à l'autre étaient donc garnies. De cette façon, j'avais un toit pour abriter ma tête, le choix entre deux lits pour me coucher et de l'argent pour acheter ma nourriture. Tout allait bien encore, mais il était trop tard. Si cette maison pouvait parler, quelles funèbres histoires elle raconterait sur moi. Les docteurs m'avaient dit de m'exercer à la parole. Étant seul, excepté quand le propriétaire arrivait à l'improviste ou que la servante de la maison voisine me disait « Beau temps, n'est-ce pas ?» ou d'autres banalités semblables, j'achetais un journal et je m'exerçais à lire à haute voix. Un jour, je tombai sur un article relatif aux femmes des maris ivrognes. C'était un rapport à ce sujet fait par un coroner de Londres qui avait été chargé de faire des enquêtes sur des maris morts dans la plus basse classe et qui avaient ses raisons pour soupçonner leurs femmes. L'examen du corps ne prouvait rien, la déclaration des témoins pas davantage, mais ils pensaient néanmoins que, dans certains cas, la femme, ne pouvant endurer plus longtemps sa misère, avait pris une serviette mouillée et attendu que son mari, accablé par la boisson, tomba dans un profond sommeil pour mettre cette serviette sur son visage et sur sa bouche et en finir avec lui sans que personne pût l'accuser. Je laissai tomber le journal et je m'absorbais dans mes pensées. Mon esprit était en ce moment dans des dispositions prophétiques. Je me disais, je ne suis pas tombé sur cet article pour rien. Je suis sûr maintenant que je ne tarderai pas à revoir mon mari. C'était juste après mon dîner. Il était 2 heures. Le même soir, au moment où je venais de souffler ma chandelle et de me mettre au lit, j'entendis un coup de marteau frapper à la porte de la rue. Avant d'avoir allumé ma chandelle, je me dis « c'est lui ». Je m'habillai à la hâte, j'allumai une lampe, je descendis l'escalier, je criai à travers la porte « qui est là ?» Et sa voix me répondit « ouvrez-moi ». Je m'assis sur une chaise dans le couloir, je tremblais de tout mon corps, comme une personne frappée de paralysie, non pas peur de lui, mais parce que mon esprit était, je le répète, dans un état prophétique. Je savais que j'en viendrais là, quoi que je puisse faire pour m'en défendre. Mon esprit me disait que l'heure était arrivée. Je restais assise, tremblante sur ma chaise dans le couloir, d'un côté de la porte et lui de l'autre. Il frappa et refrappa encore. Je savais qu'il était inutile de résister, et pourtant je résistais. Je résolus de ne le laisser entrer que lorsque j'y serais forcé. Je résolus de le laisser répandre l'alarme dans le voisinage pour éprouver si le voisinage interviendrait entre nous. Je montai à l'étage et j'attendis à la fenêtre ouverte. Le policeman arriva, les voisins sortirent, ils étaient tous d'avis qu'on le conduisit au poste. Le policeman lui mit la main au collet. Il n'eut qu'un mot à dire, il n'eut qu'à me montrer à la fenêtre et à dire à tous que j'étais sa femme. Les voisins rentrèrent chez eux, le policeman le lâcha. C'était moi qui étais dans mon tort, ce n'était pas lui. Je fus obligée de laisser entrer mon mari. Je descendis donc l'escalier et je lui ouvris la porte. Rien ne se passa entre nous cette nuit-là. J'ouvris la porte de la chambre à coucher contiguë à la mienne et rentrai chez moi où je m'enfermai. Il était épuisé de fatigue après avoir couru les rues tout le jour sans un penny dans sa poche. Un lit pour s'y étendre était tout ce dont il avait besoin pour cette nuit-là. Le lendemain matin, j'essayai encore de tourner le dos au chemin que j'étais condamné à suivre, sachant d'avance que tous mes efforts seraient vains. Je lui offris les 3/4 de ce que je gagnais, qui lui serait payé régulièrement chaque semaine au bureau du propriétaire s'il voulait vivre loin de moi et s'interdire la maison que j'habitais. Il me rit au nez. Comme mari, il pouvait tout prendre. Quant à quitter la maison, il y trouvait un logement gratuit tant que je restais chargé de garder cette maison. Le propriétaire ne pouvait pas séparer le mari de la femme. Je n'en dis pas davantage. Plus tard, dans la journée, le propriétaire vint. Il m'assura que si nous pouvions faire en sorte de vivre en paix ensemble, il n'avait ni le droit ni le désir d'intervenir. Si nous faisions du scandale, alors il serait bien obligé de chercher une autre femme pour veiller sur sa maison. Ou aller, ou trouver un autre travail. Si j'avais mis mon chapeau, si j'étais sortie, mon mari serait sorti avec moi et tous les gens honnêtes lui auraient frappé sur l'épaule et lui auraient dit « Très bien, vous êtes un brave homme ». Ainsi, il était, par sa libre volonté et avec l'approbation des autres, dans la même maison que moi. Je ne fis aucune observation, ni à lui, ni au propriétaire. Rien ne m'émouvait plus. Je savais ce qui allait arriver et j'attendis la fin. Il y avait pourtant en moi quelques changements visibles, quoique je n'en eusse pas conscience, qui surprit d'abord mon mari et l'inquiéta. Quand la nuit suivante arriva, je l'entendis fermer doucement la porte de sa chambre. Cela importait peu, quand le temps serait venu, 10 000 serrures n'empêcheraient pas ce qui devait arriver. Le jour suivant, qui était celui du paiement de ma semaine, me rapprocha du dénouement fatal. Recevant l'argent, il pouvait boire. Cette fois, il y mit une certaine malice. Il commença bien à boire, mais par degrés. Le propriétaire, désirant, comme un honnête homme qu'il était, maintenir la paix entre nous, avait donné à mon mari quelques petits travaux à faire, sous forme de réparations de peu d'importance, dans différentes parties de la maison. « Vous devez cela, lui dit-il, à mon désir d'être utile à votre pauvre femme. Je vous viens en aide par intérêt pour elle. Montrez-vous digne d'être aidé si vous le pouvez. » Joël répondit, comme de coutume, qu'il allait entrer dans une nouvelle voie. Trop tard, il n'était plus temps, il était condamné. Et moi aussi, j'étais condamné. Peu importait ce qu'il pouvait dire maintenant. Peu importait qu'il fermât à clé la porte de sa chambre, comme il l'avait fait le soir précédent. Le lendemain était un dimanche. Rien n'arriva. J'allais à la chapelle. Pure habitude, il n'en résultait rien de bon pour moi. Il but encore, mais toujours avec une étroite réserve et en se ménageant. Je savais par expérience que c'était là le signe qu'un long et violent accès était proche. Le lundi commencèrent les petits travaux de réparation dans la maison. Il était juste assez sobre pour faire son travail et juste assez ivre pour prendre un méchant plaisir à persécuter sa femme. Il sortit et alla chercher ce dont il avait besoin, puis il rentra et m'appela. « Un habile ouvrier comme moi, dit-il, a besoin d'un manœuvre sous ses ordres. Il y a des choses qu'il est au-dessous d'un bon ouvrier de faire lui-même. Je ne vais pas appeler un homme ou un enfant pour avoir à les payer. Je veux que cette assistance ne me coûte rien, et c'est vous que j'entends employer comme manœuvre. » À moitié ivre, à moitié à jeun, il continuait de parler ainsi en disposant les choses dont il avait besoin. Quand tout fut prêt, il se redressa et me donna ses ordres. J'obéis de mon mieux. Quoi qu'il dît, quoi qu'il fît, je savais qu'il marchait vers la mort aussi droit qu'un homme puisse le faire. Il y avait des rats et des souris par toute la maison. Il aurait fallu une réparation générale. Il aurait dû commencer par le plancher de la cuisine. Mais son arrêt étant prononcé, il commença par les pièces vides du rez-de-chaussée. Ces pièces étaient séparées par une cloison en latte et en plâtre. Les rats l'avaient endommagé. En un certain endroit, il avait même percé et ils avaient dévoré le papier. L'ordre du propriétaire était de ménager ce papier, attendu qu'il en avait de pareil pour faire les raccords. Mon mari commença donc à un endroit où le papier était intact. Sous sa direction, je préparai un mélange à l'aide duquel il le détacha par longues bandes sans l'endommager. Par-dessous se trouvaient le plâtre et les lattes rongées par les rats. Quoique couleur de papier de son état, il savait manier le plâtre quand cela lui convenait. Je vis comment il coupait ses lattes détériorées et enlevait ce plâtre. Je lui passai les lattes neuves et je vis comment il les posait. J'avais une effroyable raison pour ne rien ajouter. Dans tout ce que mon mari me fit faire ce jour-là, il me montrait en aveugle la manière de le tuer sans qu'une âme vivante pût avoir de soupçons sur moi. Nous finîmes la réparation du mur avec la chute du jour. Je pris ma tasse de thé et lui sa bouteille de gin. Je le laissai buvant sans ménagement et j'allai faire mes chambres pour la nuit. la place qu'occupait son lit et que je n'avais jamais remarquée antérieurement appela, pour ainsi dire de force, mon attention ce soir-là. La tête était appuyée contre le mur qui séparait sa chambre de la mienne. Mes yeux se portèrent sur ce mur. Je me demandais de quoi elle était faite et je frappais avec les jointures de mes doigts. Le bruit m'apprit qu'il n'y avait qu'une cloison sous le papier, le même genre de cloison que celle que nous avions réparée au rez-de-chaussée. En réservant les endroits qui en avaient le plus besoin, nous avions dû prendre un grand soin de ne pas percer le papier de l'autre côté de la cloison. Je me rappelais l'avertissement que m'avait donné mon mari pendant que nous faisions cette partie du travail. Il m'avait dit, voilà ses propres paroles, « Prenez garde que vos mains ne s'ouvrent pas un passage dans la chambre voisine. » Voilà ce qu'il m'avait dit dans le hall du rez-de-chaussée. Dans sa chambre, ces paroles me revinrent à l'esprit, tandis que mes yeux restaient fixés sur la clé qu'il avait mise en dedans pour s'enfermer pendant la nuit, jusqu'au moment où un jet de lumière m'éclaira sur la portée de tout ceci. Je regardai le mur, la tête du lit et mes deux mains, et je me remis à trembler. Les heures avaient passé comme des minutes. J'avais perdu toute conscience du temps. Quand mon mari monta après ses libations, il me trouva dans sa chambre. 10. Je passe volontairement sur le reste. J'arrive au lendemain matin. Jamais d'autres yeux que les miens ne verront ces lignes, mais il y a des choses qu'une femme ne peut pas écrire, même pour elle seule. J'avais souffert toutes les indignités de la part de mon mari au moment où, pour la première fois, je vis le moyen de lui ôter la vie. Il sortit vers midi pour aller faire sa tournée dans les tavernes. Mon parti était pris de me délivrer de lui pour tout de bon quand il rentra à la nuit. Les objets dont nous nous étions servis le jour précédent étaient dans le hall du rez-de-chaussée. J'étais seule dans la maison, libre de mettre en pratique les leçons que j'avais reçues. Je me trouvais une habile écolière. Avant que le gaz ne fût allumé dans les rues, tout était préparé dans ma chambre et dans la sienne. Je ne me rappelle pas avoir éprouvé une crainte ou un doute pendant ces heures. Je m'assis pour prendre mon maigre souper et mon appétit ne fut ni meilleur ni pire que de coutume. Le seul changement que je remarquais en moi était un désir ardent d'avoir quelqu'un pour me tenir compagnie. N'ayant pas d'amis à inviter à entrer, j'allai sur la porte de la rue et je me mis à regarder les passants. Un chien perdu, rôdant par là, vint à moi. Habituellement, j'ai horreur des chiens et de toutes les bêtes. J'appelai celui-là, je le fis entrer et je lui donnai à souper. On lui avait appris, je le suppose, à s'asseoir sur son train de derrière et à demander ainsi sa nourriture en agitant ses pattes de devant. Dans tous les cas, c'est ainsi qu'il s'est pris avec moi. Je me mis à rire. Cela me semble impossible quand j'y réfléchis maintenant, mais ce n'en est pas moins vrai. Je me mis à rire aux larmes à la vue de cette petite bête sur son derrière, avec ses oreilles dressées, sa tête de côté et l'eau lui venant à la gueule à la vue de la nourriture. Étais-je dans mon bon sens? Je l'ignore. Quand le chien eut obtenu tout ce qu'il pouvait avoir, il se mit à gémir pour reprendre ses courses vagabondes. En ouvrant la porte pour le mettre dehors, je vis mon mari qui traversait la rue pour entrer. « Restez dehors, lui dis-je, cette nuit surtout, restez dehors !» Il était trop ivre pour faire attention à mes paroles. Il passa devant moi et monta l'escalier en trébuchant. Je le suivis et j'écoutai. Je l'entendis ouvrir sa porte, la tirer sur lui avec bruit et la fermer à clé. J'attendis un moment et je montai quelques marches de plus. Je l'entendis se jeter lourdement sur son lit. Une minute après, il était profondément endormi et ronflait. Tout était arrivé comme il fallait que tout arrivât. En 2 minutes, sans faire quoi que ce soit qui dût appeler le soupçon sur moi, je pouvais me débarrasser de lui. J'allai dans ma chambre. Je pris le torchon que j'avais préparé. J'étais au moment d'agir. Quelque chose me monta à la tête. L'horreur me saisit, l'idée me vint de sortir de la maison. Je mis mon chapeau, je glissai dans ma poche la clé de la porte de la rue. Il n'était que 9h30, peut-être 9h45. Je n'avais qu'une idée nette dans ma tête, celle de m'enfuir et de ne plus revoir ni la maison ni mon mari. Je montai la rue, puis je revins sur mes pas. Je la descendis et revins encore. J'essayai une troisième fois. J'allais d'un côté et d'autre à l'aventure et je revenais toujours à mon point de départ. J'étais enchaîné à cette maison fatale. Je ne pouvais m'en éloigner. Ce fut-il agi même de sauver ma vie, je n'aurais pas pu m'en éloigner. Une joyeuse compagnie de jeunes gens et de jeunes femmes passa devant moi. Ils allaient en grande hâte. « Pressons le pas, dit un des jeunes gens. Le théâtre est tout près d'ici et nous arriverons juste à temps pour la farce. » Je tournai sur moi-même et je les suivis. Ayant été pieusement élevé, je n'étais jamais allé au théâtre de ma vie. L'idée me vint que je m'arracherais à mon idée fixe si je voyais quelque chose d'inconnu qui pourrait faire naître de nouvelles pensées dans mon esprit. Ils entrèrent au parterre. J'y entrai après eux. La chose qu'ils appelaient la farce était commencée. Des hommes et des femmes vinrent sur le théâtre, s'y promenèrent, parlèrent et sortirent. Bientôt, tous ceux qui étaient au parterre autour de moi se mirent à rire et à battre des mains. Le bruit qu'ils faisaient m'irritait. Je ne saurais décrire l'état dans lequel j'étais alors. Mes yeux, mes oreilles ne pouvaient me servir à voir et à entendre ce que les autres voyaient et entendaient. Mes yeux, mes oreilles ne pouvaient me servir à voir et à entendre ce que les autres voyaient et entendaient. Il y avait en moi quelque chose qui se mettait entre mes yeux et ce qui se passait sur le théâtre. La pièce semblait assez gaie à la surface, mais le danger et la mort étaient au fond de cette joie. Les acteurs parlaient et riaient pour tromper les gens, avec la pensée du meurtre sans cesse présente à leurs esprits. Personne ne s'en apercevait et ma langue demeurait enchaînée quand j'essayais de le dire. Je me levai et je m'enfuis. Dès que je fus dehors, mes pas se tournèrent d'eux-mêmes vers la maison. J'appelai un fiacre et je dis au cocher de me conduire où il voudrait pour la valeur d'un shilling. Il me descendit je ne sais où. De l'autre côté de la rue, je vis une inscription en lettres de feu au-dessus d'une porte. Le cocher me dit que c'était une salle de danse. La danse était chose aussi inconnue pour moi que la comédie. Il me restait un shilling, je le donnai pour payer mon entrée et éprouver l'effet que la vue de ces danses ferait sur moi. La lumière descendait du plafond comme si tout eût été en feu. Le fracas de la musique était effroyable. Des hommes et des femmes dans les bras les uns des autres passaient et repassaient comme un tourbillon. Tout à coup, la grande lumière qui descendait du plafond devint rouge comme du sang. L'homme qui se tenait debout devant les musiciens, agitant son bâton, ressemblait à Satan, tel que je l'avais vu dans une gravure de notre Bible de famille. Les hommes et les femmes qui tourbillonnaient avaient le visage pâle comme des morts et le corps enveloppé de linceul. Je poussai un cri de terreur et quelques personnes me prirent par le bras et me mirent dehors. L'obscurité me fit du bien, c'était bon comme une main froide se posant sur une tête brûlante. Je me mis à marcher sans savoir où j'allais et j'espérais avoir perdu mon chemin, j'espérais être à plusieurs milles de ma maison quand le jour viendrait à poindre. Bientôt je me sentis trop fatigué pour continuer ma route et je m'assis sur le pas d'une porte pour me reposer. Je dormis un peu, puis je m'éveillai. Quand je me trouvai sur pied pour me remettre en route, mon regard se tourna vers cette porte. Le numéro était le même que le nôtre. Je regardai encore. Eh, grand Dieu, c'était sur les marches de ma maison que je m'étais reposé. Cette porte était la mienne. Tous mes doutes, tous mes combats cessèrent. Il n'y avait pas à se tromper sur ce retour perpétuel à la maison que je voulais fuir. J'avais beau résister, il fallait que cela fût. J'ouvris, je montai. Je l'entendis, lui, dormant de son lourd sommeil. Je m'assis sur le lit et jetai mon chapeau, l'esprit parfaitement tranquille, parce que je savais qu'il fallait que cela fût. Je mouillai le torchon, je préparai tout, je fis un tour dans la chambre. Le jour commençait à poindre. Les moineaux gazouillaient dans les arbres du square voisin. J'entr'ouvris le volet, la faible lueur du jour naissant me dit comme si elle avait parlé « Fais cela maintenant, avant que je ne brille. » J'écoutai. Le silence aussi avait pour moi un langage. « Fais cela maintenant, tout le monde dort. » J'attendis jusqu'à ce que l'horloge de l'église sonne à l'heure. Au premier coup, sans toucher la serrure de sa porte, sans mettre le pied dans sa chambre, je posai le torchon mouillé sur son visage. avant que le dernier coup eût retenti, il avait cessé de se débattre. Quand le bourdonnement de la cloche au milieu du silence se fut éteint, il était immobile et mort. 11. Le reste de cette histoire se compte dans mon esprit par 4 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Après cela, tout s'efface et la nouvelle année arrive avec une physionomie nouvelle. C'est le commencement d'une nouvelle vie. Parlons d'abord de l'ancienne. Qu'est-ce que je ressentis dans l'horrible tranquillité du matin quand j'eus fait cela? Je ne puis me le rappeler et je ne pourrais le dire si je le savais. Je puis écrire l'histoire des 4 jours et c'est tout. Mercredi. Je donnai l'alarme vers midi. Pendant les heures précédentes, j'avais mis tout en ordre de manière à ce que rien ne pût être vu. Je n'eus qu'à appeler au secours. Les voisins arrivèrent, puis la police. Ils frappèrent vainement à la porte. Alors ils l'enfoncèrent et le trouvèrent mort dans son lit. L'ombre d'un soupçon ne vint à l'esprit de personne. Il n'y avait pas à craindre que la justice humaine me découvrît. Ma seule crainte était la crainte d'un dieu vengeur. J'eus un court moment de sommeil cette nuit, pendant lequel je refis en rêve ce que j'avais fait en réalité. Pendant un temps, mon esprit fut poursuivi par l'idée de tout avouer à la police et de me constituer prisonnière. Si je n'avais pas appartenu à une famille respectable, je l'aurais fait. Mais depuis une longue succession de générations, il n'y avait pas une tache sur notre nom. C'eût été donner la mort à mon père et déshonorer tous les miens que d'avouer ce que j'avais fait et de porter ma tête sur l'échafaud. Je priai Dieu de me guider et vers le matin, j'eus une révélation. Je reçus l'ordre dans une vision d'ouvrir la Bible et de jurer sur le Saint-Livre de séparer à partir de ce jour ma personne criminelle de mes semblables innocents, de vivre au milieu d'eux d'une vie isolée et silencieuse, de ne faire usage de la parole que pour la prière seulement, dans la solitude de ma chambre, et quand nul ne pouvait m'entendre. Seul, le matin, j'eus cette vision et je fis ce serment. Nulle oreille humaine ne m'a entendu parler depuis. Nulle oreille humaine ne m'entendra jusqu'à ma mort. Jeudi. Les voisins vinrent me parler comme d'habitude. Ils me trouvèrent muette. Ce qui m'était arrivé dans le temps passé, quand ma tête avait été blessée et quand la faculté de la parole avait été affectée en moi, rendit mon mutisme plus probable. On me reconduisit à l'hôpital. Les médecins furent divisés d'opinion. Les uns dirent que le choc récent que je venais de recevoir pouvait avoir produit le mal. D'autres dirent « Elle a recouvré la parole après l'accident, il n'y a pas eu de nouvelles lésions cette fois. » Cette femme feint le mutisme pour quelque raison à elle. Je les laissai discuter tant qu'ils voulurent. Toutes les paroles humaines n'étaient plus rien pour moi. Je m'étais séparé de mes semblables. J'avais commencé ma vie isolée et silencieuse. La pensée du châtiment suspendu sur ma tête ne me sortait pas de l'esprit. Mais le jugement d'une providence vengeresse, voilà ce que j'attendais. Vendredi. On fit l'enquête. Il était connu depuis de longues années comme un incorrigible ivrogne. On l'avait vu revenir tous les soirs à la maison en état d'ivresse. Il avait été trouvé enfermé à clé dans sa chambre et les verrous des volets également tirés. Il n'y avait pas eu de feu dans son grenier. Rien n'y était dérangé. Aucune possibilité humaine d'y pénétrer. Le médecin déclara qu'il était mort d'une congestion au poumon et le jury prononça son verdict en conséquence. 12. Samedi. Jour marqué pour toujours sur mon calendrier comme celui où la justice céleste descendit sur moi. Vers 3 heures de l'après-midi, au grand jour, sous un ciel sans nuages, au milieu d'une centaine d'innocentes créatures humaines, moi, Esther d'Estrange, je vis pour la première fois l'apparition qui est destinée à me poursuivre tout le reste de ma vie. J'avais passé une nuit terrible. Je sentais ce que j'avais senti le soir où j'étais allé au théâtre. Je sortis pour essayer les effets du grand air, du soleil et de la fraîche verdure des arbres et du gazon. L'endroit le plus proche où je pouvais trouver cela était Regent's Park. Je m'avançai dans l'une des tranquilles allées du parc qui sont interdites aux chevaux et aux voitures et où les vieillards peuvent se réchauffer au soleil et les enfants se livrer à leurs jeux. Je m'assis pour me reposer sur un banc. Parmi les enfants se trouvait un bon petit garçon qui s'amusait avec un nouveau jouet, un cheval attelé à une charrette. Pendant que je le regardais occupé à enlever des bandes de gazon et à les charger dans sa charrette, un frisson glacé courut par tout mon corps. Quelque chose devait être caché près de moi qui allait sortir de sa cachette. Il y avait un gros arbre, il était là, derrière cet arbre. Le fantôme sortit de sa cachette, environné d'ombre, au milieu du plus brillant soleil. Ce ne fut d'abord que la forme vague d'une femme. Bientôt, elle devint plus distincte et s'éclaira d'une lumière intérieure, elle devint plus brillante. J'avais devant moi la vision de moi-même. C'était mes traits répétés, comme si j'avais été debout devant une glace. C'était le double de moi-même, regardant avec mes yeux. Je vis ce fantôme s'avancer sur la pelouse, se pencher sur ce beau petit garçon. Je le vis se relever et écouter, comme je m'étais relevé et comme j'avais écouté à l'aube du jour, quand j'attendais que l'horloge sonne à l'heure. Quand l'heure sonna, le fantôme me montra le petit garçon avec ma main et il me dit avec ma voix « Tue-le !» Un temps se passa. Je ne saurais dire si ce fut une minute ou une heure. Le ciel et la terre disparurent devant moi. Je ne vis plus que le double de moi-même, me montrant toujours du doigt. Je ne sentis rien que le désir de tuer l'enfant. Puis le ciel et la terre reparurent à ma vue. Je vis des gens qui m'environnaient, me regardant avec surprise et se demandant si j'étais en possession de ma raison. De force, je me dressai sur mes pieds. De force, je détournai mon regard de l'enfant. De force, je m'arrachai à la vue de l'apparition et je me retrouvai dans les rues. Je ne puis décrire la fureur de la tentation. Je me disais que c'est comme si je m'arrachais la vie que de m'arracher à l'envie de tuer cet enfant. Ce qui s'est produit à cette occasion s'est toujours reproduit depuis. Pas d'autre remède que dans cet effort plein de torture, pas de soulagement à l'agonie que je ressens que dans la solitude et dans la prière. La prévision d'un châtiment prochain m'avait poursuivi et ce châtiment était venu. J'avais attendu le jugement de la Providence vengeresse et l'arrêt avait été prononcé. Je pouvais dire maintenant avec le pieux David « Ta colère terrible est sur moi, je succombe aux terreurs que tu m'inspires. » Arrivé à cet endroit du récit, Geoffrey releva la tête pour la première fois. Un bruit au dehors de la chambre l'avait dérangé. Ce bruit venait-il du corridor ? Il écouta. Il y eut un intervalle de silence. Il ramena son regard sur le manuscrit, tournant les feuillets l'un après l'autre pour voir ce qu'il lui restait à lire. Après avoir relaté les circonstances dans lesquelles elle avait recommencé son service domestique, Esther n'avait plus repris son récit. Les feuilles qui restaient étaient remplies par une sorte de journal. Les courtes mentions inscrites se rapportaient toutes aux différentes occasions où Esther d'Estrange avait revu la terrible apparition d'elle-même, lui désignant tantôt une personne, tantôt une autre, et où chaque fois elle avait résisté à la frénésie homicide naissant des hideuses créations de son cerveau détraqué. Dans l'effort que lui coûtait cette résistance, gisait le secret de son opiniâtre détermination à insister pour être affranchi à certains moments de tout travail et à imposer cette condition à tous les maîtres qu'il employait d'avoir une chambre à elle pour y reposer la nuit. Après avoir compté les pages qui restaient, Geoffrey revint à l'endroit où il s'était interrompu afin de continuer sa lecture jusqu'à la fin. Comme ses yeux se portaient vers la première ligne, le bruit dans le corridor, qui avait cessé pendant un moment, vint de nouveau le déranger. Cette fois, il n'y avait pas de doute à avoir sur la nature de ce bruit. Il entendit des pas précipités, il entendit le cri affreux que poussa Esther d'Estrange, qui s'était réveillée sur sa chaise dans le parloir et venait de découvrir que la confession n'était plus dans ses mains. Il mit le manuscrit dans la poche intérieure de son habit. Cette fois, sa lecture avait été de quelque utilité pour lui. Il n'avait pas besoin d'aller plus loin, il n'avait plus besoin de revenir au calendrier de Newgate. Le problème était résolu. Lorsqu'il se leva, son morne visage s'éclaira lentement d'un terrible sourire. Tant que la confession de la femme était dans sa poche, cette femme elle-même était en sa puissance. Si elle veut que je la lui rende, se dit-il, il faudra qu'elle en passe par mes conditions. Cette résolution prise, il ouvrit la porte et se trouva face à face avec Esther de Freyge dans le corridor.